Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
Y a sa barbe qui pique un peu. Y a
bonjour Thomas Mulcair.
Salut notre barbu.
Eh oui, notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et aussi chroniqueur au Journal de Québec, au Journal de Montréal. Et ce matin, tu nous parles des deux solitudes. T'es quelque chose comme un passeur, toi, Tom, parce que t'as un pied dans chaque solitude. Mais si tu me permets de te taquiner un peu, puis je reçois des courriels là-dessus, un passeur comme ça qui a un pied dans chaque solitude, il peut aussi parler des deux côtés de la bouche pour utiliser une expression traduite.
Ben oui, tout à fait. Je comprends exactement l'expression puis comment c'est utilisé. Mais si tu regardes l'autre barbu, si tu regardes dans mon article dans la Gazette cette semaine, tu vas me voir décrire le français comme our common language, notre okay. langue en commun à tous les Québécois. Je le dis en anglais dans la Gazette. Mais c'est vrai que des gens pour qui le dossier linguistique n'a pas été une question de renforcer et de soutenir la langue et la culture québécoise, mais plutôt une arme politique, vont toujours dire qu'il faut choisir son camp. Mais quand on connaît les nuances et les contours, comme je le mentionne dans mon papier dans le Journal de Montréal aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de travailler autant Claude Ryan que travailler au Conseil de la langue française au temps où le Dr Camille Lorrain était là. Et je l'ai connu après son séjour en politique.
OK, oui, ça tu le dis souvent, Tom, si tu me permets. Mais est-ce que tu es d'accord avec le fait que ce que demande Sonia Lebel, là, la ministre québécoise des Relations intergouvernementales canadiennes, elle, dans un document récemment, a dit qu'il faudrait en finir avec la fameuse symétrie qui met les deux langues officielles sur le même pied partout au Canada, comme si elles étaient d'égale force. Et c'est ça qu'elle dit. Elle dit le français a besoin de plus de protection.
Mais c'est une évidence qu'au niveau national, le français, c'est la langue minoritaire.
C'est ça.
C'est évident. Par ailleurs, il y a certains droits, comme le droit pour une minorité linguistique de contrôler et de gérer ses commissions scolaires, que M. Legault a tenté d'enlever avec le projet de loi 40 ici au Québec. Ça va toujours être défendu dans les tribunaux, parce que c'est un droit qui est accordé aux, avec un X, minorité linguistique. Donc, autant la nuance de Sonia Lebel et l'expression d'une évidence qu'au niveau national, il y a une minorité linguistique, c'est le français, qui a des besoins spécifiques et qui doivent être tenus en compte. Mais par ailleurs, il y a des droits linguistiques qui doivent justement être soutenus et protégés pour les deux côtés. Mm-hmm. Mais tu me dis, en me taquinant, que je te l'ai déjà dit, mais ces deux personnes-là, Claude Ryan et Camille Lorrain, étaient représentatifs de cette dualité d'idéologie et de point de vue. C'est-à-dire qu'au début, à son arrivée, Camille Lorrain tire en profit de sa formation comme psychanalyste et psychiatre, faisait une analyse du Québec, de sa position minoritaire, qui a influencé toute sa vision pour amener la loi 101. Je vais partager quelque chose avec toi qui n'est pas très connu. Après l'échec du référendum de 1980, donc moi, j'ai commencé au Conseil de la langue française en 1980. On avait analysé les aspects linguistiques et l'attitude des gens vis-à-vis du référendum. Et il y avait un constat qui était intéressant. En fait, c'était le succès réel, palpable, de la Charte de la langue française dans les quelques années où il était déjà là, qui a fait en sorte que ça a baissé la pression, la ferveur de plusieurs personnes qui disaient, ben, pour nous, ça, c'était une des grandes batailles qu'il fallait mener. Et ça peut-être atténué des appuis, selon l'analyse qui a été faite à l'époque, ça a peut-être joué pour atténuer, notamment dans la grande région de la capitale nationale.
Je suis d'accord, Tom, mais 43 ans plus tard, là, il y a des livres qui s'écrivent, je pense au livre de Frédéric Lacroix, qui dit « La loi 101 est finalement un échec aujourd'hui parce que tu as beaucoup de transferts linguistiques dans les communautés immigrantes. Le français n'est pas devenu vraiment leur langue malgré l'obligation scolaire. Il faudrait peut-être étendre ça au cégep, tout ça. » Donc, cette conclusion-là, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Deux choses. Pour les cégeps, ça aussi, c'était sur la table de l'époque. Et je me souviens justement de la réaction de Camille Lorrain. il s'agit d'adultes, puis on dit que pas un adulte dans quelle langue il va travailler. Ça, c'est la situation. Deuxième chose, pour ce qui est de cet échec, l'achat de la langue française et les transferts linguistiques, ça, je crois que c'est l'exemple type de ce qui doit être étudié, analysé. Il y a, en ce moment, on est face à des a priori, des conclusions tirées d'avance. C'est cette attitude-là qui me préoccupe à l'aube de cette étude-là. Si le même Jolin Barrette arrive avec ses conclusions tirées d'avance, je veux bien que tu me cites un auteur, mais il y a d'autres études qui vont être sur la table. Alors, si on a des ornières, si on a déjà décidé d'avance qu'on connaît la conclusion, ça mène nulle part.
As-tu l'impression que le français est en recul à Montréal? Comme plusieurs le disent,
À certains égards, oui. En ce sens qu'il y a une fuite vers les banlieues. Si on commence dans le nord, là, si on regarde qu'on est soit à Repentigny et Terrebonne, puis toutes ces banlieues-là, jusque dans les Basses-Laurentides, c'est vrai qu'il y a une fuite et ces communautés-là sont 100% ou tout proche de 100% francophones. Puis par la force même, à Montréal, il y a encore plus de diversité.
Mm-hmm.
Mais moi, j'ai bien hâte d'avoir des analyses objectives avec des experts, parce qu'experts, il va y avoir. Mais ce qui me fait craindre, quand on commence un débat en disant qu'il y a des choses qui ne se débattent pas, c'est peine perdue. Et
oui.
si on est ouvert et on dit, OK, amène les meilleures statistiques. Il y a des packages de statistiques pour les sciences sociales là, qui vont nous donner de l'information. On va faire une plongée profonde là-dedans. Puis on va savoir exactement si le français est en train de s'étioler à Montréal ou quand, comment. C'est quoi la meilleure réponse à ça? Si c'est ça le but, moi, je vais être là à toutes les étapes.
Mm-hmm.
Si le but, c'est d'utiliser la langue comme un outil politique au lieu d'un instrument de politique publique, c'est là où je vais débarquer, parce que j'ai joué dans ce film-là au fil des ans.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau aujourd'hui? Tu parlais de Camille Lorrain tout à l'heure, dans le sens où 43 ans plus tard, il y a l'anglais et la langue de l'Internet, des médias sociaux. C'est massif là, comme force.
Tu es en train de plaider la même chose que moi. Il y a des analyses objectives de la réalité de 2021 qui doivent venir informer notre perception de ce qui a été fait et de ce qui doit être fait pour promouvoir et préserver notre langue en commun, le français au Québec, et préserver la langue minoritaire du Canada.
Mais je lisais The Gazette en éditorial qui disait qu'il ne faut pas remettre en question la symétrie entre les deux langues officielles.
Tu es en train de pointer, là, tu as ciblé exactement le point le plus sensible pour Mélanie Joly, qui, soit dit en passant, a déjà siégé au Conseil supérieur de la langue française.
C'est vrai.
Son nouveau nom à l'époque.
Ouais.
Et c'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied dans ce dossier-là, qui a une vision très claire qu'il faut renforcer le français. On n'a qu'à se rapporter au bras de fer qu'il y a eu entre elle et Lambropoulos et tout ça. Mais si on veut être fair, Lambropoulos, peut-être elle est en train de tirer des conclusions, mais elle posait une question, surtout.
Ah, moi, Lambropoulos, je l'ai défendu. On a le droit de se poser des questions.
Ben, c'est exactement là où je m'en allais.
Oui.
Donc, si on arrive devant une commission parlementaire, puis les maires démocrates et autres experts vont être là, puis tout va être sur la table, et on va dire, non, c'est vrai, c'est une conclusion juste de dire qu'il faut faire quelque chose, et voici les 3 ou 4 points où on peut justement infléchir cette tendance et tourner la courbe dans la bonne direction, on va embarquer le monde. Si c'est un exercice pour rallier un consensus autour de la nécessité de promouvoir et protéger le français, il va y avoir des alliés. Moi, j'ai écrit ça dans The Gazette, que cette notion justement de renforcer auprès de ce lectorat, j'ai dit, notre langue en commun, c'est le français.
Okay.
Et la plupart des gens de mon âge, on a élevé des enfants en français, les anglophones du Québec, on a élevé nos enfants en français. Nos petits-enfants sont souvent unilingues français. Donc, on a de la peine des fois quand on se fait pointer du doigt.
Ben oui.
Puis laisse les éditorialistes puis les commentateurs avoir leur point de vue. Puis ça fait partie de la discussion. Mais ce que je peux te dire une chose, c'est que ma génération de Québécois, on est très fiers de du Québec. On est très fiers de faire partie de la solution pour la promotion et la protection du français. Et parfois, et j'ai eu beaucoup de lettres après les discussions dans la Gazette cette semaine, il y a beaucoup de gens qui disent, garde, moi, je suis parfaitement bilingue. Mes enfants, parfaitement bilingue. Puis je commence à être découragé parce que je me sens pointé du doigt.
Je comprends, mais il y a un tel déséquilibre. Je prends juste la question des universités en français dans le reste du Canada, puis les universités en anglais au Québec. Alors,
c'est catastrophique.
Épouvantable, là, la nouvelle université ontarienne qui a 46 inscriptions, qui est sous-financée, qui n'a même pas de faculté sérieuse. C'est fou, l'université Laurentienne.
L'université Laurentienne est en faillite.
Après ça, l'université en Alberta, alors que l'université McGill, Concordia sont chouchoutées, il faut le dire, par le gouvernement du Québec.
Ce sont des grandes universités de recherche.
Mais ils sont chouchoutés. On va leur faire un don là, du Royal Vic, par exemple, à McGill, qui bénéficie en plus d'une fondation d'un milliard. Je veux dire, ils sont extrêmement riches. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ça, c'est pas frustrant? Non seulement il n'y a pas égalité des langues, mais il y a une disproportion du traitement aussi.
Ben oui, il y a une disproportion historique, c'est vrai. Mais est-ce que le but, c'est de faire un nivellement vers le bas ou de se battre d'arrache-pied pour monter le niveau de français? J'ai travaillé au Manitoba. Je sais que c'est une communauté dans plusieurs endroits qui était en difficulté. Mm-hmm. En Saskatchewan, les Françaisquois, il y a des places historiques. Paul-André Crépeau, qui était un des plus grands juristes du droit civil.
Ben oui, j'ai eu un cours avec Paul-André Crépeau, oui.
A fait ses études au collège universitaire de Gravelbourg en Saskatchewan. Mm-hmm. C'est un Français d'origine et son fils, François, est aujourd'hui un des éminents juristes à l'Université McGill. Donc, à travers le Canada, il y a déjà eu mieux et plus en termes d'endroits où étudier en français.
Absolument.
Et il faut travailler dans ce sens-là. Quand Doug Ford a décidé de couper à cette université en Ontario, il y a eu une tollée, il était obligé de reculer. Ça, c'était encourageant. Mais comme tu dis si bien, c'est un échec total. Parce qu'ils n'ont jamais mis l'énergie, l'effort, ni les sommes pour que ce soit une réussite.
Oui. Bon, écoute, merci beaucoup, Tom, pour ce dialogue des barbus sur les deux solitudes.
Dialogue des barbus et les deux côtés de la barbe.
Exactement. Mais ce qui est agréable d'avoir un ancien politicien comme chroniqueur, c'est qu'il est capable de recevoir des questions difficiles.
Ah ben ça m'a fait plaisir. Puis cette question-là, de la part de quelqu'un qui nous suit, ça m'encourage qu'il y ait des gens qui suivent nos discussions et nos débats, qui veulent embarquer là-dedans. Mais deux, c'est une indication que c'est un dossier avec énormément de contours. Et si on arrive armé avec les faits plutôt qu'avec des préjugés, je pense qu'une bonne chose va arriver de cet effort collectif et au fédéral et au provincial pour promouvoir et protéger la langue française.
Très bien. Merci beaucoup, Thomas Mulcair, notre barbu.
Salut.
Accessoirement collaborateur à La Joute et à plein d'autres émissions. Et vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.